Et autre conséquence du Brexit, pourrait-il faire vaciller la domination de l'anglais en Europe? La question a été soulevée dès les jours qui ont suivi le vote des Britanniques, avec les déclarations de certains responsables européens qui laissent entendre que l'anglais pourrait perdre son statut de langue officielle de l'Union européenne. Ces propos ont depuis été nuancés. Le débat pourtant reste vif et plusieurs linguistes y ont pris part ces derniers jours. Bonsoir François Grin.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à la faculté de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève. Vous avez co-signé une tribune avec 6 autres confrères européens consacrée justement aux conséquences du Brexit sur le terrain des langues. Croire que l'anglais pourrait perdre mécaniquement son statut de langue officielle de l'Union européenne, c'est une absurdité selon vous ?
Alors, je pense que oui, parce que d'un point de vue juridique, il n'y a absolument aucun automatisme de ce point de vue-là. Il faut du reste pas confondre deux questions différentes. Il y a la question des langues de travail des institutions européennes, et puis il y a la question du statut de telle ou telle langue en tant que langue que les citoyens peuvent utiliser pour échanger, s'adresser à la Commission européenne ou aux institutions européennes en général, en particulier le Parlement et leurs députés. Or, dans l'un comme dans l'autre cas, il n'y a absolument pas de base légale à l'idée que automatiquement l'anglais devrait disparaître. Du reste, l'annonce qui a été faite par la présidente de la commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen a été, à cet effet, elle a été rapidement démentie, tout simplement par la représentation irlandaise qui disait, bah, écoutez, si ce n'est que ça, nous allons demander, nous ne l'avons pas demandé jusqu'à présent, mais nous demanderons à ce que le statut officiel de l'anglais soit maintenu.
Alors, pas de base légale, vous dites. Il y a quand même quelque chose d'un peu absurde dans le fait de maintenir malgré tout l'anglais comme principale langue de communication quand on sait que l'Union européenne bientôt n'abritera plus d'anglophones natifs à l'exception d'une poignée d'Irlandais et de Maltais.
C'est une grosse poignée quand même, hein. Oui. Ça représente 4 millions et demi d'habitants. Et puis, les Maltais aussi, qui, pour beaucoup, parlent très couramment l'anglais. Ça représente, effectivement, après le Brexit, c'est moins de 2% de la population de l'Union européenne. C'est effectivement peu de choses. Alors, je crois que la question qui est en cause ici, ce n'est pas tellement le fait que l'anglais soit plus ou moins important dans le contexte européen. C'est que l'anglais s'est installé dans le contexte de la mondialisation en tant que langue qui a une influence extrêmement particulière, extrêmement forte, plus forte à l'heure actuelle en tout cas, que la plupart des autres grandes langues du monde. Donc c'est cette réalité-là qui sera, elle non plus, à peine changée, à peine affectée par le Brexit. C'est pour ça que mes collègues et moi-même disons, écoutez, le Brexit, ça va franchement pas changer grand-chose et les défis restent les mêmes qu'auparavant.
Ça paraît indéniable en effet, il n'empêche. Hein. Certains défenseurs de la francophonie ont en tout cas saisi l'occasion du Brexit pour exiger l'abandon de l'anglais comme langue officielle. On a pu joindre tout à l'heure Albert Salon, c'est un ancien ambassadeur français. Il préside l'association Avenir de la langue française. On l'écoute François Grin, on vous retrouve juste après.
Si le Brexit a une conséquence logique, il n'y a plus de justification d'avoir l'anglais comme langue officielle. Ça ne veut pas dire qu'il ne resterait pas naturellement assez longuement, vraisemblablement, comme langue commune, pratique, etc. Le fait qu'il ne soit plus langue officielle, si nous arrivons à obtenir ça, et je peux en douter bien sûr, mais si nous arrivons à obtenir ça comme c'est souhaitable à notre sens, ça aurait comme conséquence tout de même pratique, directe, que les textes qui sont produits, et Dieu sait s'ils sont nombreux et contraignants et importants, n'auraient plus de justification à être rédigés en anglais, puisque c'est la vraie officialité, c'est celle-là, c'est dans les textes. C'est un geste politique qu'il s'agit de faire. C'est affirmer que non seulement d'un point de vue national, mais du point de vue européen, la personnalité européenne à créer, elle ne peut pas être anglaise. Et nous devrions avoir normalement, nous Français et nous Italiens, comme alliés, l'Allemagne pour monter au créneau contre cette officialité de l'anglais au sein des institutions européennes.
François Grin, comment vous interprétez ce genre de propos? Il a évoqué l'aspect national, on a presque envie de dire ici, tout d'un coup, c'est cette langue française, hein, en réaction derrière, qui est présentée comme un outil identitaire.
Alors, pas forcément. Je pense qu'il y a deux strates là. La première, c'est qu'il a fait intervenir au tout début de son intervention la notion de justification. Donc, on quitte le domaine du purement juridique des traités européens. On s'éloigne aussi de la question sociolinguistique, de la diffusion de telle ou telle langue, pour aborder une troisième question. Cette troisième question, c'est celle qu'est-ce qui est juste en termes de politique publique. Et là, c'est une politique publique particulière, vu que c'est la politique publique d'un ensemble d'États qui représente 27 pays pays restants de l'Union européenne après le départ du Royaume-Uni. Cette question de la justification, elle est très importante et elle est pertinente. Il a raison de la soulever. La question à ce moment-là, ça va être qu'est-ce que nous voulons ? Et je pense que là, il se pose effectivement la question de la remise en cause de l'hégémonie que peut exercer une langue. Alors que cette langue, je répète toujours, que cette langue soit l'anglais ou une autre langue n'a pas vraiment d'importance. La question c'est, est-ce qu'il est souhaitable, oui ou non, d'avoir une langue dominante ? Est-ce que cette langue dominante peut être, tout en restant juste, peut être l'une des langues nationales des États membres? C'est là qu'il y a des questions extrêmement importantes. Je crois qu'ici, la réflexion dans laquelle, à laquelle il faut s'atteler, effectivement, c'est de développer une politique linguistique qui dépasse l'option, entre guillemets, par défaut, de la simple soumission à la dominance de l'anglais. Et puis, c'est une approche qui, elle, ne peut naître que, et c'est ce qu'on a dit avec mes collègues dans cette tribune à laquelle vous aviez fait allusion, ça ne peut naître que d'un débat ouvert, démocratique, sur notre avenir linguistique en tant qu'Européens. Puis je mets nous les Suisses là-dedans parce que par ricochet, on est naturellement concernés.
Absolument, on est Européens, on est en tout cas sur le continent, ça c'est sûr. Il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est celui, on va dire, plus économique, du poids économique de la langue. Vous disiez dans un rapport en 2005, sauf erreur, que la langue anglaise, cette domination quelque part de la langue anglaise, rapportait jusqu'à 20 milliards d'euros au Royaume-Uni. Est-ce que c'est encore le cas et comment est-ce qu'on l'explique ?
Alors l'estimation des 20 milliards, elle était délibérément prudente, elle était basée sur des estimations aussi minimalistes que possible pour ne pas se faire accuser de peindre le diable sur la muraille. Je pense que c'est des montants supérieurs et je pense qu'en termes réels, si ils ont évolué dans un sens ou dans un autre, ils ont augmenté.
40 milliards, le double.
Alors, je veux pas me permettre difficile de faire des estimations parce que là ce serait vraiment des chiffres en l'air. L'important c'est que ces transferts sans compensation, sans contrepartie continueraient à se manifester. Alors il y a les transferts qui sont strictement matériels, c'est un marché énorme que l'on livre, si vous voulez, aux pays anglophones en termes de développement de matériel pédagogique, de séjours linguistiques. Les séjours linguistiques, on va les faire en Angleterre, on va pas les faire en Lettonie ou en Estonie, donc ça rapporte énormément d'argent. Et à part ça, il y a aussi d'énormes avantages symboliques. Ces avantages symboliques, c'est des effets de légitimité du discours qui est produit dans la langue considérée comme prestigieuse et dominante. Et ça, il y a effectivement un véritable problème, et dans ce sens-là, l'intervention de l'ambassadeur Albert Salon, elle se justifie. Il y a quelque chose à remettre en cause, parce que bon, une hégémonie, il y en a certaines qu'on accepte. On accepte l'idée de l'hégémonie des droits de l'homme, par exemple. Le problème, c'est une hégémonie a-t-elle une base, une justification politique ? Et la justification politique de l'hégémonie d'une langue, elle est vraiment très très difficile à trouver, notamment parce qu'il y a comme conséquence de cette hégémonie tous les effets économiques qu'on vient d'évoquer. Donc là, il y a toujours un problème et il ne va pas disparaître avec le Brexit.
Alors on l'entend bien, cette hégémonie creuse des inégalités entre pays européens. Comment faire pour la réduire, cette hégémonie, très concrètement ?
Alors, l'hégémonie, il faut peut-être aussi dire qu'elle ne tient pas que à la différence entre la position de tel ou tel pays qui serait privilégié. Il y a aussi des conséquences en termes de fractures sociales. Les gens qui savent l'anglais actuellement sont principalement les personnes qui appartiennent aux catégories les mieux formées, aux catégories aux revenus les plus élevés. Et ça, les données récentes, y compris les données de ce qu'on appelle en anglais l'Adult Education Survey, l'enquête sur l'éducation des la formation des adultes, auprès, je crois, d'environ 200 000 répondants à travers l'Europe, confirme que l'anglais, c'est largement un projet d'élite. Si vous excluez, si vous faites de l'anglais la langue de référence, la langue dominante, la langue unique dans laquelle on diffuse les directives communautaires, essentiellement vous allez exclure de toute communication à peu près 90% de la population européenne qui sait peu ou pas du tout l'anglais. Donc le vrai problème de justice et d'injustice, il est double. Il y a celui des transferts non compensés dont on a parlé, entre pays non anglophones et pays anglophones, mais il y a aussi les effets de fracture sociale à l'intérieur de tous les pays, entre ceux qui savent et ceux qui savent pas l'anglais. Alors si on veut interpréter le vote du Brexit et d'autres courants populistes ailleurs en Europe comme l'expression d'une certaine révolte de personnes qui se sentent laissées pour compte, ne pas remettre en cause la position de l'anglais, ce serait au fond aggraver le problème au niveau de ces divisions sociales internes. Alors que faire? Je pense qu'il faut avoir des stratégies à plusieurs niveaux. Il faut avoir des stratégies qui, sans exclure naturellement le recours dans certains contextes, en fonction du contexte, à des langues importantes comme l'anglais, travaillent aussi sur l'enseignement des langues, travaillent aussi sur le développement des compétences dans des langues voisines de la sienne, parce qu'à ce moment-là, on peut travailler à l'écrit en lisant beaucoup de choses et en décodant des choses dans des langues voisines de la sienne. Il faut utiliser de manière ciblée la traduction et l'interprétation. Il y a donc tout un ensemble d'instruments qu'il faut combiner. C'est des dosages subtils, mais une politique linguistique, c'est largement ça, c'est arriver à développer des dosages subtils.